Allez, c'est parti.
C'est parti, Louis, on attend que ça, c'est ton moment.
On cherchait de la musique pour l'épisode, Louis va donc s'en charger.
Et sinon, il y a ma tête dans tout Grenoble.
Oui.
Enfin, il paraît, j'ai pas vu encore.
Oui.
Ces affiches, elles sont magnifiques.
Bientôt ta tête dans nos salons, quand tu nous auras envoyé les...
Ah bah oui, c'est surtout ça.
J'en ai gardé trois pour l'instant.
Parce que du coup, pour les auditoristes, Nini est sur l'une des affiches de la Pride de Grenoble. Parce qu'il y a plusieurs, enfin, il y a une déclinaison d'affiches avec plusieurs portraits et il y en a un où Nini est là.
Oui, c'est moi. Et pour l'audio-description, c'est chaque portrait a en overlay sur son visage un drapeau. Donc sur le mien, il y a le drapeau trans, il y
En
a...
overlay, genre en incrustation, quoi.
Voilà.
Comme si c'était
Oui.
projeté, mais Photoshop. Ou maquillé, tiens, ça pourrait être
Oui, ça ressemble
du
beaucoup à du
body
maquillage.
painting.
Et donc il y a le drapeau trans sur mon visage, il y a le drapeau lesbien sur celui d'une amie, il y a le drapeau donc gay, LGBT, il y a le drapeau
Genderqueer.
gender fluide, voilà,
Ah,
oui.
je sais plus lequel des deux.
Je crois que c'est gender fluide, ouais. Et c'est tout?
Non, il y a
Il en
drapeau
manque
bi
un.
aussi.
Le drapeau bi, c'est ça. Voilà.
Et je me suis inscrite effectivement pour avoir une affiche de côté avec Nini. Je veux Nini dans mon salon. Ça me rappelle que je crois que c'est à la fin de l'épisode 7 qu'on m'a vanté une affiche surprise, genre pour mon anniversaire. C'était il y a des mois maintenant, j'ai toujours pas vu cette affiche. Mais je. Voilà.
Alors l'histoire c'est qu'on s'est vu plein de fois, non deux fois depuis, et à chaque fois j'oublie de la ramener, voilà, c'est assez stupide. L'excuse officielle c'est qu'elle est grande comme ça.
C'est important qu'il y ait une seule main dans le cadre à chaque fois, oui, c'est ça.
Elle est grande et du coup ben, il faut penser à prévoir de la transporter et tout, et du coup ça... Voilà.
Et je vais venir la chercher à force.
Bah du coup, je t'invite à penser à la trans, à comment tu vas la transporter quand tu rentres avec. Parce que c'est pas évident. Ouais, c'est un coup, est-ce qu'elle soit détruite? Y a du coming out dans l'air? Voilà. Comment je vais dire
Vous
ça?
allez enchaîner là-dessus,
Parfait.
waouh!
Transition!
Vous allez dire sur une note positive. Ah mais non, ça spoil tout de suite. On va faire. Est-ce qu'il y a du coming out? Est-ce qu'il y a du coming out dans l'air? Et là, je vais répondre. Oui, moi, Ninéane. Il s'avère que j'ai fait mon coming out à ma mère il y a présent un mois. Voilà, on
Félicitations.
était partis en week-end à Arles ensemble. Et on va dire que j'avais prévu un peu mon truc. Je me dis, on rentre du week-end. Je lui fais mon coming out, j'ai écrit une lettre de 4 pages, j'ai imprimé des petites brochures directement pompées sur Wikitrans. Ma lettre aussi était un peu pompée sur Wikitrans, mais pas tant que ça. Mais un peu pour la structure, c'est à mon avis une très bonne ressource de ce point de vue-là.
C'est fait pour.
Et oui, c'est fait pour. Et c'était vraiment bon. En fait, c'était un peu bizarre parce que c'était à la fois le moment le plus stressant de ma vie. Concrètement, j'étais terrifiée. Parce que bon, j'avais déjà envoyé des signaux un peu auparavant, mais sans donner des clés, sans, enfin, elle n'avait pas les clés d'interprétation concrètement. Elle pensait que j'étais lesbienne. Comment dire? Oui, mais dans l'autre sens. Mais comme elle habite à 11 000 km, c'est compliqué d'envoyer des signaux et de les faire interpréter. Et alors, en fait, elle a très bien réagi, mais vraiment très très bien. Même si elle était un peu surprise et je suis extrêmement soulagée. Maintenant, enfin vraiment, ouais, j'ai eu la force de le faire, quoi. C'est vraiment un truc de fou parce que ça faisait des années que je reculais le truc, quoi. Et en même temps, en fait, quand j'ai enfin eu la force de le faire et que j'en ai pris la décision, j'étais stressée mais confiante, j'allais le faire et advienne que pourra. Ce qui était déjà une sensation plus agréable que l'espèce de placard douloureux qui précédait cette décision, quoi.
Eh bien, bravo à toi.
Félicitations,
C'est très
Auguste.
chouette.
C'est cool.
Au final, on a tous fait des coming out, mais ce qui se passe bien, il faut d'autant plus les partager, je pense,
Oui.
pour rassurer d'autres personnes qui en ont de prévu.
Et merci et bienvenue à ta mère qui nous écoute maintenant.
Non, je l'ai pas encore dit. J'y vais par étapes. Déjà, là encore, le Wikitrans, mon allié, je lui ai dit, tu lis tout. Tu lis tout.
Non, mais il y a un lien vers nous, non?
Oui, en plus, il y a un lien.
Ah, j'avoue, il y a un lien vers nous sur la page d'accueil du Wikitrans.
Je suis pas sûre que ma mère écoute des podcasts. Enfin, je peux même dire que non. Mais c'est vrai que c'est un peu...
Ben, la mienne, non, bon, ben... mais je l'ai pas trop épargnée. Je suis partie d'un podcast et du coup, j'ai envoyé l'épisode. Et du coup, c'est l'épisode où je suis la chanson de La planète au trésor, où clairement ça parle de problèmes familiaux à des moments donnés. Elle est là, non, mais ça m'a permis de mieux comprendre.
C'est bien, hein, c'est bien. Est-ce qu'il y a un autre coming out dans l'air?
Oui, de mon côté. Alors moi par contre c'était pas du tout prévu, hein, alors que d'habitude j'aime bien quand c'est organisé, quand c'est bien rangé comme il faut et tout, et là en fait ben j'ai juste vu l'occasion, spoiler, j'étais en train de parler avec ma mère et elle a dit à un moment donné, oh mais de toute manière, même si on n'a pas d'enfant, on peut être une femme, hein, ça change rien. Et donc j'ai dit, alors, bah oui, tout à fait, parce que le genre et le fait d'avoir des enfants, ça n'a rien à voir. Par contre, il se trouve que, puisqu'on aborde le sujet, et donc je lui ai fait mon coming out à genre, et puis après, il a fallu que j'explique un petit peu ce que c'est, et il y a eu la partie, comme je m'y attendais, de « Oui, mais est-ce que c'est pas plutôt que tu te sens, tu te reconnais pas dans les stéréotypes féminins et du coup c'est ça en fait qui va pas, c'est les clichés dans la société d'une femme, ça doit être comme ça et tout, et du coup je lui ai fait remarquer que j'ai comme modèle de femme depuis ma plus tendre enfance, il y a elle qui s'habille en jogging, sweater,
butch.
Ouais, elle a les cheveux longs, donc du coup, elle n'est pas 100% butch, mais aucun maquillage, aucun bijou, enfin, c'est difficile de dire qu'elle est dans les canons de féminité sociaux, enfin, tu vois, voilà. Donc, clairement, c'est pas ça que j'ai dans ma tête quand on parle de femme, c'est pas les clichés. Et puis, elle a dit, ouais, mais... Bah oui, on peut complètement être comme ça. Et j'ai dit, ouais, et si ça se trouve, t'es sur le même spectre que moi. Et là, peut-être.
En fait, il y a un troisième coming out.
Je laisse.
C'est héréditaire.
C'est héréditaire.
Mais non, mais j'adore. On verra. J'adore ces histoires de coming out d'enfants qui, genre, ça donne des coming out ou des, enfin, pas coming out des parents, mais tu te rends compte qu'il y a des trucs dans ta famille où tes parents en mode genre, enfin, des trucs qui des queernés se refoulaient depuis longtemps et t'es là, t'es. C'est à la fois génial et genre terrifiant.
Et donc, bienvenue à ta mère qui écoute le podcast.
Non, je lui ai juste dit d'aller sur le kit.
Non, je lui ai pas encore parlé de tout ça. Je laisse déjà, parce que là, du coup, ça devient une réflexion personnelle, tu vois, pour elle. Du coup, je laisse déjà cogiter un peu et puis on en reparlera certainement.
Bonsoir, vous écoutez un podcast trans. Nous sommes en septembre 2021. Je suis avec Po. Bonsoir, Po.
Bonsoir.
Bonsoir, il y a Kat. Salut, Kat.
Bonsoir.
Kat. Voilà, on fait les témoins de voix, évidemment, comme à chaque fois. Il y a Malé. Salut, Malé.
Salut, et désolé pour les bruits de frigo. Voilà.
Les bruits de frigo, très bien, on fera gaffe. Salut, Louis.
Salut.
Et il y a enfin Jenna. Salut, Jenna.
Bonsoir, tout le monde.
Bonsoir, bonsoir. On a eu des retours.
Yes, des retours.
On a eu des retours. La foule est en délire.
Il y a eu deux sujets sur lesquels on a eu des retours. Le premier sur le babala, on avait parlé de comment on fait pour croiser des mecs dans la rue, mais aussi des adelfes dans la rue. Est-ce qu'on leur fait signe? Est-ce qu'on leur fait pas signe? Globalement, il y avait deux types de commentaires. C'était... Peut-être que c'est très gênant de faire des coucous à des adelfes dans la rue, parce que peut-être ça les met mal à l'aise, peut-être c'est une mauvaise idée. L'autre retour, c'était concernant, voilà, donc les mecs qu'on croise dans la rue, eh bien, c'était assez unanime, finalement, parmi celles et ceux qui nous ont répondu que c'est pas trop mal d'appliquer la stratégie de Jenna, qui est en fait très largement appliquée déjà.
Salut l'équipe de Un Podcast Trans, moi c'est Mika et en fait ben, je voulais réagir à ce que Jenna avait dit concernant cette anecdote où elle a croisé une fille qu'elle a identifiée comme une meuf trans et que voilà, elle a voulu lui faire signe et qu'ensuite elle s'est demandé si finalement c'était une bonne idée ou pas. Moi j'ai une anecdote un petit peu similaire d'avoir croisé une consœur trans qui était chez la même orthophoniste que moi. Et en fait, ben, je l'ai identifiée tout simplement parce que la salle d'attente étant juste à côté du cabinet, t'entends tout ce qui se passe. Et ben, assez vite, j'ai compris que c'était son premier rendez-vous et qu'elle faisait un bilan vocal avec mon ortho. Moi, je voyais depuis déjà une bonne dizaine de séances. Et ben, quand elle est sortie, en fait, j'ai voulu la saluer dans l'idée de lui dire que c'était cool qu'elle voit cette orthophoniste, qu'elle était vraiment hyper bienveillante, qu'on pouvait super bien bosser avec elle. Donc, il y avait vraiment, de ma part, c'était une démarche bienveillante. Et ouais, j'ai senti qu'en fait, elle n'a pas forcément apprécié que je le fasse. En tout cas, elle s'est sentie un petit peu, un peu gênée. Ça s'est vu à son regard. On a pu d'ailleurs se recroiser en milieu associatif un petit peu plus tard et en parler. Et du coup, c'est vrai que ça m'a servi un petit peu de base pour savoir comment je réagissais si j'avais le sentiment de croiser un ou une adelphe trans dans la rue. C'est vrai que moi, je suis out, j'assume pleinement le fait d'être une meuf trans et ça ne me dérange pas du tout qu'on me fasse signe au contraire, mais en fait, ben, je comprends que pour d'autres personnes, ça peut tout simplement être perçu comme le fait que notre passing n'est peut-être pas suffisant ou que, enfin voilà, se faire cloquer, il y a des personnes qui peuvent réagir plutôt négativement par rapport à ça, même si ça vient d'une autre personne trans. Et du coup, ben, c'est vrai que je suis partie du principe que je préférais faire comme si de rien n'était. Et puis du coup, ben, peut-être rater une chouette rencontre plutôt que de mettre la personne mal à l'aise. En tout cas, c'est la manière dont moi, j'ai préféré me positionner à partir de cette anecdote-là. Ce qui n'empêche que voilà, je peux aussi comprendre qu'à un moment, on ait envie d'envoyer peut-être un signe de soutien à une personne qui sort dans la rue. On a peut-être envie justement, on se dit ça va peut-être la booster. Mais c'est vrai que comme la fois là, j'ai eu plus le sentiment de faire du mal que du bien. Moi, ça m'a pas forcément encouragé à recommencer et à interpeller de manière discrète, mais à interpeller quand même une personne qui me semble être une personne trans dans la rue. Voilà, c'est mon avis, c'est ma petite contribution. Mais en tout cas, ça a le mérite de voir qu'on se questionne aussi toutes et tous là-dessus, sur comment on réagit quand on va croiser quelqu'un dans un espace qui est un espace public et pas un espace communautaire où là, bon, on sait en général qu'on est entre nous et que c'est plutôt safe. Voilà, merci, vraiment un gros, gros, gros merci pour votre podcast et pour tous les sujets que vous abordez. Ça fait vachement de bien de vous écouter, de rigoler avec vous, de pleurer avec vous parfois, de râler avec vous. C'est cool et j'espère qu'il y aura plein d'autres numéros aussi intéressants et avec un contenu aussi varié que celui que vous proposez habituellement. Grosse bise.
Du coup, à la meuf trans que j'ai croisée à Nantes et mise mal à l'aise. Bah, désolée meuf. Voilà.
Moi j'ai un truc là-dessus qui m'a fait penser, c'est que alors il faut savoir que pour mon pot de départ de mon ancien travail, on m'a offert une chemise aux couleurs du drapeau trans et je porte cette chemise très régulièrement et à chaque fois que je la porte, je me fais arrêter par une adelphe dans la rue.
Ah
genre,
ouais, d'accord.
Vraiment, genre en mode... Mais tu sais, c'est pas genre... oh là là, ta chemise est trans, c'est plus... J'adore comment t'es habillée. Et genre, où tu vois les gens clairement queer.
Wink, wink.
À toi, la personne que j'ai croisée devant un lycée habillée tout en violet, qui était très magnifique, si jamais tu écoutes l'épisode. C'était très cool. Et les gens du bar queer de Montpellier aussi. Enfin, bref, voilà. Donc, à chaque fois, genre, j'ai quelqu'un qui m'arrête à un moment donné pour me dire « Eh !» Wink, wink.
Il m'est arrivé une chose de la sorte où j'étais à une caisse d'un supermarché et il y avait probablement un mec trans dans la file d'attente devant moi, enfin sur le côté, et qui avait un badge trans en fait sur son sac de mémoire. Et du coup, on avait fait un eye contact, et donc je lui ai fait un signe nickel de la main, quoi, pour lui signifier que je complimentais son badge. Et voilà, il m'a répondu avec un clin d'œil, et c'était adorable.
Peut-être que c'est ça aussi la solution pour savoir si on salue ou pas des personnes trans qu'on croise dans la rue. Si elles portent un accessoire qui signifie clairement qui elles sont du gang, là c'est peut-être on peut interpréter ça comme un signe positif de salut.
Et que du coup on l'assume en fait. Enfin,
Ouais.
on assume d'être interpellé à cette occasion par les Adelphes. Ouais.
Bah, surtout que si on complimente un accessoire ou un vêtement, on n'est pas en train de dire à la personne hey, « Eh, t'as l'air trans !» On est en train de dire «
C'est
Tu
chouette.
portes quelque chose qui célèbre le fait d'être trans et j'aime bien ça.
Et peut-être que t'es juste un allié après tout.
Peut-être.
Surtout moi qui porte littéralement le drapeau transtéro en chemise direction.
Non mais ça me refait penser à l'histoire de toi, Jenna, qui portait des badges trans en mode « Oh, c'est joli !» C'est toi, non? C'est quelqu'un d'autre.
Sais plus.
Si, t'avais dit sur ton manteau, tu portais...
Ouais.
Il y a longtemps, tu portais un badge avec un symbole trans.
Ah oui, même pendant 10 ans, oui.
Voilà.
D'accord. Ok.
Et puis à l'époque, tu disais « Non, c'est juste parce que le symbole est joli. »
D'accord. Ça suffit.
Pour revenir sur l'intro, on a eu aussi des retours les petites recommandations de Mary à la fin de l'épisode 11 en termes de porno chouette.
On a eu des chouettes retours sur Twitter d'actrices porno qui donnaient des recommandations et qui ont fini par se choper dans nos mentions. C'était très mignon.
Tout à fait. Sinon, en termes d'update, voilà, c'est un peu le segment news, c'est le 20h. Il y a une lettre ouverte qu'on a publiée avec le Wikitrans et d'autres associations, notamment AcceptTST, pour en citer d'autres, l'espace Tenter Trans. Je ne l'ai pas sous les yeux, ce n'est pas, c'est mal préparé, donc je ne peux pas citer les autres. Il y avait XY
Non, mais il y en
Media,
avait plein,
il y en
ouais.
avait plein. On était signataire également, Jenna aussi, via nos votes. C'est une lettre ouverte adressée à l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, au sujet des pénuries récurrentes des traitements hormonaux féminisants, dans ce cas spécifique, mais on sait qu'il concerne voilà, les traitements hormonaux plus largement. Et ce qui a provoqué cela, c'est l'arrêt de production des patchs Vivaldo, des patchs d'œstrogènes. Si vous voulez lire cette lettre et la relayer, elle sera dans les notes. Sachant que le labo a depuis fait un communiqué pour nous répondre, en disant que, entre autres, j'ai pas envie d'être trop acerbe en paraphrasant ce qu'ils ont dit.
Positif, on a dit.
En disant que voilà, notre utilisation de ces patchs se faisait en dehors de l'autorisation de mise sur le marché du traitement et qu'ils en étaient très désolés, voilà, évidemment, et qu'ils nous invitaient à consulter nos médecins.
Mais c'était vraiment un truc un petit peu fourbe en fin de communiquer. Nous sommes désolés que ça impacte les personnes trans qui utilisent nos produits en dehors de l'autorisation, quoi.
C'est ça.
Et par ailleurs, ils donnent aucune raison pour l'arrêt de la fabrication des patchs, quoi. Bon, après, ça n'aurait pas changé grand-chose d'avoir une raison, mais...
J'ai trouvé cette réponse... Enfin, au-delà qu'elle soit potentiellement énervante, en fait, j'ai trouvé cette réponse inutile. Mais
Mais leur
vraiment...
but, c'était pas leur but, c'était pas d'être utile. Enfin, de toute manière. Tu réponds pas, oui, mais de toute manière, vous utilisez des trucs hors AMM à des personnes trans en sachant qu'il n'y a aucun traitement hormonal qui est prévu officiellement pour les personnes
Oui.
trans. Donc tous nos traitements hormonaux sont hors AMM, par définition.
Oui.
On est une catégorie qui n'existe pas.
C'est limite dangereux de leur part de nous répondre nommément dans la mesure où leurs produits ne sont pas prévus pour nous, parce qu'ils sont en train d'admettre que les produits sont utilisés hors AMM. Bref, du coup, c'est bien si on se tourne vers nous-mêmes et les initiatives, genre le Wikitrans, il y a une page sur les traitements hormonaux qui permet d'étudier toutes les alternatives et de savoir quoi demander à ses médecins. Et ce sera toujours bien de trouver des solutions communautaires plutôt que de dépendre de trop de l'industrie pharmaceutique ou des médecins, comme d'habitude.
Sinon, il y a une grosse actualité qui concerne directement l'équipe. Qui concerne très directement l'équipe. Je vois que Louis s'est levé de sa chaise. Je vois que d'autres yeux se sont levés aussi.
Il trépigne.
Bon,
Il
alors.
va pas trépigner longtemps,
Alors, faut très vite donner du contexte aux blagues qui peuvent surgir.
hein. Vas-y, Po, je t'en prie.
Alors, contexte. Contexte, j'ai enfin réussi à avoir un rendez-vous qui se passe bien pour déclencher une hystérectomie.
Ah, mais qu'est-ce donc?
Eh bien, une hystérectomie, c'est... alors, moi, j'appelle ça un utérus. Je sais que ça plaît, voilà. Une hystérectomie, c'est une opération chirurgicale qui consiste à enlever une partie ou la totalité de l'utérus chez une personne qui possède un utérus. On fait ça pour plein de femmes cis qui peuvent avoir un problème à l'utérus, mais c'est aussi une opération qui se pratique pour des personnes trans qui auraient, dans leur parcours et leur lutte contre la dysphorie, besoin d'enlever leur utérus. Voilà, et du coup, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie qu'on enlève ça. Genre, ça doit faire peut-être 10 ans que j'y réfléchis. Au moins 2 ans que j'ai réussi à trouver un médecin qui était d'accord pour me faire une lettre en disant que j'avais envie qu'on m'enlève l'utérus. Chose merveilleuse en plus, c'est que j'ai pas fait mon coming out à ce médecin, donc
Ah oui.
normalement la lettre aurait dû me genrer au féminin, mais par les grâces du logiciel automatique qui met des accords neutres pour tout le monde, c'est et avec E entre parenthèses, et.
Ce reste de la du langage inclusif. Oh là
Heureusement, tout ça va être éradiqué bientôt.
là.
Voilà. Et donc là, j'ai vu un chirurgien qui... Attention, attention. J'ai vu un chirurgien qui sait ce que c'est qu'une personne à genre.
Oh.
Première fois de ma vie que dans une conversation, je dis... Donc, pourquoi vous voulez faire cette opération? Voilà, tout... Déjà, je suis arrivée, j'ai dit, je voudrais me faire stériliser. Oui, bien sûr.
Waouh.
Quoi? Pardon? Parce que ça, c'est pas souvent en tant que...
Répétez-le une deuxième fois, on l'enregistre, on le met dans le podcast.
Attends, mais... pour te dire, j'ai tellement d'années d'errance médicale pour la stérilisation, parce que je veux aussi être stérilisée, parce que je veux pas avoir d'enfant, et surtout pas tomber enceinte. En fait, ça fait des années que j'essaye de trouver des gens dans la profession médicale qui sont au moins réceptifs à cette idée. Et généralement, c'est des retours extrêmement négatifs comme mais non, vous allez changer d'avis plus tard, ça c'est super. Ou le pire, c'est peut-être que vous en voulez pas, mais votre copain, il va en vouloir un jour et il va vous quitter.
Et il va vous quitter? Mais
Charmant.
pourquoi cette
Et il va
partie?
vous quitter.
Mais pourquoi cette partie en fait? What?
Mais parce que l'unique rôle des femmes, c'est la reproductivité.
Voilà.
Et d'avoir un utérus disponible pour l'homme qui la possède.
Ben voilà. Et puis qu'il la possède jusqu'au bout,
Ok.
c'est
à la
ça.
fin.
T'aurais pu lui répondre lequel?
En plus,
Non, il n'y en a qu'un.
en plus, on n'est pas rentré dans le discours de. Alors, en fait, mes partenaires sont stériles. Du coup, ça va pas se poser comme question, tu vois. Mais bon, c'était pas la peine de commencer. Non, non, enfin, que des retours très négatifs. Donc, quand on m'a conseillé ce chirurgien, j'y suis allée avec 1. J'ai demandé à mon partenaire cis mec de venir avec moi pour pouvoir présenter l'échantillon en disant, regardez, il est d'accord. Il a voté oui.
How to
Ce qu'il ne faut
use
pas
male
faire.
privilege to your advantage.
Mais complètement. Et puis j'ai été très transparent avec lui. C'était, tu viens pour dire oui. Je veux pas d'enfant. Je suis d'accord. Et il
Je
était tout à
donne mon
fait.
consentement libre et éclairé. Même si c'est sur le corps de quelqu'un d'autre.
Non mais il fallait qu'il donne fin.
Alors bon, donc j'avais prévu accessoire 1. Mon partenaire cis mec. Accessoire 2, le dossier de 50 pages avec un essai sur pourquoi c'est très important pour moi d'avoir une stérilisation et une hystérectomie, les différents examens que j'avais eu avant, la lettre qui datait d'il y a 2 ans qui disait qu'il y a déjà 2 ans, je voulais... Voilà. Et du coup, j'étais prête à argumenter pendant une bonne demi-heure, tu vois. Et je suis arrivée, je dis, oui, voilà, bonjour, je voudrais être stérilisée. Oui, bien sûr. Alors, on prend quelle date?
C'est un ultra knarf.
Non, mais j'étais quasiment déçue. Quasiment déçue, t'étais là. Vous voulez pas écouter mes raisons? Parce que
j'ai fait mes devoirs, j'ai bien préparé. Vous êtes sûr que je voulais pas que je fasse un exposé vite fait et vous le remonterez à vos élèves après?
Gardez-moi pitié, j'ai préparé ce moment-là toute ma vie.
C'est ça. Et à un moment donné dans la conversation, je dis même, puis mon copain est en salle d'attente et il est d'accord aussi, hein, vous inquiétez pas. Et là, il dit, merveilleux. Il dit, ah bah c'est très bien pour lui, mais on s'en fout.
Waouh, mais...
Yes.
Mais cette personne est vraiment bien. Attends, mais...
Faudra que tu me donnes le nom de ton médecin pour quand je vais y penser pour moi.
Ouais, on se parlera. Donc voilà, donc c'est super génial et c'est prévu, c'est prévu dans 2 jours.
Waouh.
Au moment où on enregistre ce moment.
Voilà, et alors, juste dans les petits plaisirs, j'ai décidé de calculer le nombre de règles auxquelles je vais éviter. Parce que j'aime bien. Donc, formule, si je prends l'âge moyen de la ménopause, que je calcule le nombre d'années qui me restent, et avec la fréquence que j'ai, le nombre de cycles par année qui me resteraient, environ, hein, je suis arrivée à, environ 168 cycles auxquels je vais éviter. Et donc c'est environ 2 ans, 3 mois et 20 jours de règles.
Wow.
Et je parle de règles, c'est-à-dire de moments où mon utérus est en train d'expulser du sang.
J'ai envie de faire la même pour genre depuis que j'ai le truc qui m'arrête mes règles, genre surtout que moi c'était genre vraiment l'enfer, genre plié en deux, endométriose dans tous les sens et genre... Bref, voilà. Mais ok, oui.
Très bonne idée, très bonne idée.
Combien de litres de sang ça fait?
J'ai pas calculé, j'aurais dû. Non, pardon, excusez-moi. Bientôt, je vais. Pendant que Louis parlera, je calculerai.
Oh my god. Ok.
Voilà, donc quoi d'autre? Non, c'est tout.
Et la formule du calcul dans les notes de l'épisode, évidemment.
Et la formule du calcul, comme ça, ça pourra parler à d'autres personnes.
Oui, merci.
Voilà.
J'ai besoin de faire ça.
La 20 000 heures.
Voilà. Alors par contre, oui, petite note, moi, j'utilise pas de traitement hormonal. Du coup, dans ces cas-là, c'est très, très important pour les personnes qui ont le même système de diffusion d'hormones que moi, de garder les ovaires. Parce qu'on ne peut pas faire sans hormones.
Oui. Alors, qui d'autre a des opérations?
Alors, parce que du coup...
J'ai l'impression qu'on est au marché.
L'anecdote rigolote, c'est qu'on se fait opérer à un jour d'écart avec Pau, parce que moi, je vais faire ma mamectomie, ou aussi appelée torsoplastie, du coup, le 17, le même jour que la sortie de l'album Montero de Little Nas X.
Tu dis ça à chaque fois, ça me fume.
Oui, voilà, c'est un peu mon repère, et je considérais une bénédiction de l'univers, de From the Gay Gods, que c'était la bonne chose à faire.
Go faire le remake du clip dans la chambre d'hôpital.
Avec mes draps qui vont être sur les côtés de serre en prenant mes draps comme ça. Quel enfer.
Louis, je te vois beaucoup bouger, j'espère que tu ne donnes pas des coups violents dans ton zoom qui est possédé.
Absolument pas, il n'a pas bougé, je ne l'ai pas. J'ai réussi à ne pas le toucher, ce qui est un peu un exploit pour moi qui fait des gestes un peu dans tous les sens.
Mais oui, parce que je te vois faire ça. Bref, pardon.
Je suis très peu stable physiquement. Bref, que dire dessus? C'est un truc que j'avais envie de faire, une opération que j'avais envie de faire depuis longtemps, même si j'ai avant de participer à la trajectoire trans organisée par l'Espace Santé Trans. C'est quelque chose où j'avais jamais pris les démarches parce que je suis un peu flippé des démarches administratives, médicales en général. Là, j'en ai fait beaucoup, du coup. et du coup, je vais me faire opérer sur Paris, ce qui, maintenant que j'ai déménagé de Paris, demande pas mal de logistique, mine de rien. Notamment chez qui je loge, qui m'accompagne, qui va me changer les pansements, qui... Mais a priori, tout ça, c'est à peu près calé. Enfin, j'avais déjà envie de faire genre vers la vingtaine. Et d'ailleurs, pareil, quand t'as parlé de l'hystérectomie, ça m'a fait penser que genre vers 20 ans, j'ai dit à ma mère, mais c'est pas possible que genre je me fasse enlever un truc ou quoi, et qu'elle m'a fait, t'es trop jeune, personne voudra jamais te le faire. J'ai fait une voix très cliché à ma maman, alors qu'elle a pas du tout cette voix-là, enfin voilà, pardon. Pardon maman, si t'écoutes.
J'ai cru que ta mère était là. Hein.
Et salutations à ta mère qui écoute le podcast.
Mais oui, en plus. Oui.
Ah, ce que tu veux la refaire.
Et on salue bien salement la maman de Louis.
Voilà.
Ne changez pas.
Non, mais en plus, elle est mignonne en ce moment et tout. Genre, elle s'est acheté un bouquin sur les transitions et tout, machin. Enfin, bref.
Oh.
Non, du coup, ouais. Et c'est à la fois. Alors, du coup, c'est genre vraiment. Le stress vient plus de l'organisation qui vient autour que de l'opération en elle-même. Genre, j'ai juste hâte. Ça fait plus de 2 ans que je porte un binder. Genre vraiment 2 ans et demi, et quand je dis que je porte à manière, c'est-à-dire que je pense que les 6 premiers mois, je le portais une fois de temps en temps, je pense que le reste du temps, je l'ai porté, genre tout le temps. Ne portez pas vos binders plus de 8 heures par jour, faites des pauses, si vous avez chaud, enlevez-le, mettez-vous sous l'eau froide et remettez-le après, ou si vous pouvez, genre aérez-vous, mais surtout faites attention, pas plus de 8 heures par jour, et ne dormez surtout pas avec, surtout pas.
C'était la rubrique « Faites ce que je dis, pas ce que je fais
». Alors, je ne dors pas avec. Je l'ai très certainement porté plus de 8 heures par jour, ce qui m'a valu des remarques de potes où je suis en mode « J'ai un peu mal au côtes, je sais pas pourquoi, en étant allongé sur le ventre », et qui me regardent en mode « Ton binder
!» Très joli message de prévention.
On fait pas assez de messages de prévention sur les binders, trouve-je. Voilà, c'est très bien et ça fait beaucoup d'euphorie et ça fait beaucoup de bien, mais faites attention parce que vous abîmez votre corps, ça peut potentiellement vous priver de faire une mamec après, si vous avez fragilisé vos côtes, si vous avez fragilisé votre peau ou tout ça. Donc il y a plein de ressources communautaires pour faire ça bien et de manière sécure.
Il me vient une idée, parce que les messages de prévention télévisuelle et radiophonique du ministère de la Santé se terminent souvent par « Ceci était un message de Santé publique France », un truc comme ça.
« Ceci était un message de Santé publique trans ».
Exactement, voilà, tu as lu dans mes pensées, félicitations. Voilà.
Magnifique.
Vous êtes envoyé un message.
Vraiment pas.
Pas du... C'est ça, c'est ça.
Alors Louis et moi, on ne se parle pas.
On ne s'envoie surtout pas des photos d'Adam Driver.
Pas du tout. Aucune photo d'Adam Driver ne transite.
Non mais alors, c'est bien qu'on me mette dans la boucle.
Pour les infos importantes.
Comment mal ça croit.
Bon.
Bref. Sinon, comme promis tout à l'heure, pendant l'intervention de Louis, j'ai fait le calcul.
Ah.
Et avec l'hystérectomie, je vais ne pas perdre environ 5 litres de sang.
Okay. Soit la contenance d'une peau.
Non.
À peu près.
C'est vrai que ça fait presque l'équivalent de la totalité du sang que tu as dans ton corps.
Ouais, c'est pas énorme finalement.
Enfin, c'est plus 6-7 litres.
Bah, ça dépend de la taille.
Ça dépend de la taille. Ouais. J'ai fait une sorte de average parce que on peut, apparemment, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, on peut perdre entre 5 ml ou 80 ml de sang par cycle.
Wow.
Et j'ai jamais calculé en fait. Et c'est trop tard maintenant parce que c'est l'opération fini. Est dans 2 jours.
Tu n'auras plus jamais tes règles.
Voilà, vous ne me voyez pas, mais je viens d'avoir un silent scream devant.
Vite, encore une pour la science.
Moi, j'ai dit que j'allais.
Une cup graduée.
Mais du coup, sur les petites joies d'après, j'ai dit que j'allais brûler tous mes os. Et non, c'est faux, je vais pas faire ça. Mais enfin, bref, pour la blague, j'ai dit que j'allais brûler tous mes os et plus que m'acheter des trucs transparents, tu vois, genre pour qu'on voit tout le temps mon torse. Ou me balader torse nu tout le temps comme Grey dans Fairy Tail. Pour les gens qui ont la ref, merci les weebs qui nous écoutent.
J'ai la ref.
Merci.
Kyle Loren.
Et du coup, maintenant, ça veut dire que tu auras le droit de te balader torse nu. Enfin,
oui,
dans les
fait.
Endroits où c'est autorisé d'être torse nu, c'est-à-dire pas partout, mais...
Tu sais, j'habite dans le sud, hein, genre, y a des gens torse nu, j'en croise tous les jours.
C'est autorisé dans le sud, c'est
ça. Non, mais, tu vois, genre, normalement, t'as pas le droit, même quand t'es un mec, de te balader torse nu, mais genre, je veux dire, tu passes un certain seuil en France, genre, les mecs du sud, ils sont torse nu H24, peu importe où ils sont.
C'est mon expérience de Toulouse il y a quelques jours, ouais.
Bah, moi, j'aurais pas le droit de me promener cul nu, c'est dommage, hein.
Tout le monde y perd.
Pardon.
Mais du coup, c'était rigolo. En parlant de ça, c'est des discussions. Les discussions avec le chirurgien qui était en mode. Du coup, tes auréoles. Je ne sais plus comment. Je crois que je dis
auréole.
Auréole, putain. Je dis auréole, mais en fait, c'est pas ça.
Non, c'est la sueur, les auréoles.
Il dit tes.
C'est les seins, les auréoles, mais c'est pas les mêmes seins.
Oui, il te dit en mode tes aréoles, tu les veux plus ou moins grandes, et tes tétons, tu les veux plus ou moins genre longs, tout ça, et t'es là, t'es. C'est trop bien, genre je custo, genre comme si, comme les customisations de personnages, tu sais, genre en mode comment je veux mettre tout ça, c'est trop cool. Donc j'ai un peu.
T'as choisi quoi? Non, pardon.
Ben on en parle le jour de l'opération, donc je te dirai le jour de l'opération, je t'envoie un petit message. Du coup, j'ai choisi telle taille.
C'est légèrement stressant quand même, c'est un peu la pression là. C'est bon, alors dans 2 minutes on fait, tu veux quoi alors?
Non, parce que je sais ce que je veux et que. En fait, si ça se trouve que j'ai. Alors attends, ouais. Voilà, j'ai un bouquin de photos de mecs trans sur American Boys Project qui est super cool.
Ah, mais oui, tu m'en avais parlé.
Oui, on en avait parlé, tout à fait. Et donc je vous recommande, qui est très bien parce que c'est à la fois des mecs trans opérés, pas opérés, hormonés, pas hormonés, plus ou moins vieux, plus ou moins jeunes. Donc c'est vraiment un très chouette bouquin. Et ouais, du coup, je sais à peu près ce à quoi je veux que ça ressemble. Donc en fait, il y a vraiment le stress qui vient de cette opération, c'est plus de toutes les démarches médicales qu'il y a autour, de genre les rendez-vous avec l'anesthésiste, les rendez-vous avant, et puis tu sais, quand il va, il se dit « Ah, c'est dans 2 semaines, peut-être prenez vite rendez-vous avec l'anesthésiste, parce que ça se trouve, vous n'aurez plus de rendez-vous, lol !» Et je l'ai dit « Quoi ? Comment ? Panique !» Ouais. Donc c'est vraiment ça, et le fait que je suis pas out à une bonne partie de ma famille, et que bon, au bout d'un moment, voilà quoi, genre ça.
Bah, y a peut-être une différence physique qui va se voir.
Bah ça dépend, ça fait 2 ans que tu portes un binder H24, oui. Je sais pas si la différence physique va se voir. Hein.
Bah alors je pense qu'elle se voit plus depuis que j'ai pris de la testo, parce que j'ai énormément perdu de poitrine. Donc, truc cool aussi que par rapport à mon chirurgien, il m'a demandé si je voulais passer en périoréolaire ou en double incision. Donc, pour les gens qui ne savent pas, la périoréolaire, c'est ce qui laisse très peu de cicatrices, mais qui est mieux quand tu as peu de poitrine. Et la double incision, c'est les cicatrices doubles qu'on voit assez régulièrement. Et du coup, j'ai pu choisir ça aussi parce que, ayant fait jusqu'à un bonnet E dans ma vie, ma peau ne va pas se retendre plus que ça. Et du coup, oui, avec la testostérone, j'ai énormément perdu de poitrine, et ce qui fait que, même maintenant, ça se voit, enfin, avec le binder, ça se voit quasiment plus que j'avais des seins en dessous, alors qu'avant, tu te doutais bien que j'avais pas des pecs aussi énormes avec des bras aussi fins, quoi, genre maintenant que j'ai fait du...
Dis donc, c'est vachement ciblé comme
travail de musculation,
c'est... Tout dans les pecs,
c'est... C'est le négatif de Popeye, regarde.
Ça se trouve, ta famille, ils verront la diff parce que d'où soudainement tu vas respirer.
Ah oui. Tiens, t'es plus tout bleu, comment ça se fait?
Pardon, c'est trop. Est-ce que quelqu'un d'autre a des updates?
Alors, je sais pas par où attaquer, je pense que j'ai une... On fera un... peut-être un point plus long sur mon opération prévue en octobre, parce qu'on a un autre épisode d'ici là, donc voilà. Mais il se trouve que depuis le début de mon traitement hormonal, j'ai eu des symptômes qui ressemblent à des symptômes de règles, sans le saignement évidemment, mais les mêmes crampes abdominales et les autres joyeusetés de changement d'humeur, etc. Et jusque-là, bon, je l'ai pris plutôt comme une sorte de validation. J'ai lu ça et là que ça pouvait être un signe que j'avais pas assez d'hormones, ce qui semble être contredit par mes niveaux. Et puis, ce qui était jusque-là à peu près mensuel, c'est-à-dire environ 2 jours par mois et à peu près régulier, a commencé à s'accélérer depuis le mois de juin. Et j'ai commencé à avoir... enfin deux fois, puis trois fois, puis quatre fois dans le mois, et puis là, le mois de septembre, c'est vraiment tous les deux, trois jours. Et je me suis demandé, à un moment donné, ça correspondait à peu près avec le moment où je suis passée du gel aux injections pour le stradiol, et je me suis demandé si ça correspondait à des creux dans les niveaux d'hormones. Et aucun médecin n'accepte de me faire faire un test d'hormones tous les jours, comme moi j'aimerais, pour pouvoir monitorer exactement ce que j'ai. Donc on est obligé de simuler ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un test, je fais deux jours avant, et puis la fois suivante, je fais deux jours après, puis après j'essaye de reconstituer des courbes, etc. Et manifestement, c'est pas ça. J'ai refait un test ce matin, deux jours après une injection, ça semble être... voilà. Ça semble être... je suis dans la moyenne d'une femme cis entre sa période lutéale et sa période ovulatoire. Ce qui est pile bien, parce que moi j'essaye de faire pousser des boules, parce que c'est ce qu'il faut à peu près. Et comme je commençais à être un peu inquiète de la façon dont ça s'accélérait, j'ai aussi demandé à ce qu'on puisse explorer un petit peu plus, et j'ai fait une échographie cet après-midi. On s'est rendu compte que j'avais des... calcul dans la vésicule biliaire, et que en fait ça n'a rien à voir avec mon traitement hormonal, et juste donc j'ai des accrétions, des cailloux en fait, qui passent à travers ma vésicule biliaire dans le reste de mon flux, et qu'à chaque fois que j'ai mal comme ça, c'est un caillou qui s'empare, et comme c'est en train de s'accélérer, je vais devoir être opérée assez urgemment. Et donc dans un sens, je suis soulagée que ce soit pas le traitement hormonal et du coup pas de ma faute. Et personne ne sait à quoi sont dus les calculs dans la vésicule biliaire. Mais à côté, voilà, on va devoir m'opérer de ça bientôt et puis on va vous raconter ça bientôt aussi.
Et bah belle aventure, pas vraiment mais...
Voilà. Ouais, super.
Mais on espère que ça va bien se passer, que tu vas vite aller mieux du coup.
Alors... j'espère, parce que là ça fait vraiment genre... pendant deux jours, tous les 4-5 jours, je suis pliée en deux, avec une bouillotte, avec du spasfon et du doliprane. Donc c'est un peu, on va dire, heureusement que je travaille pas, quoi. C'est ouais. Avec des gros guillemets qu'on n'entend pas. Voilà.
Pour embrayer sur un truc un peu plus drôle gore,
oui
voilà, drôle gore, je préviens.
Drôle gore, ok.
Je suis déjà tombée très jeune sur un petit flacon dans le buffet de la cuisine de ma grand-mère, sur un petit flacon qui contenait un très gros caillot de vésicule biliaire, voilà, qui était celui de la dite grand-mère. Voilà.
À peut-être pas garder, mais j'ai une grande tante qui s'est fait retirer un caillot et qui, après, pareil, avec le flacon et le caillot, genre, dans le truc, elle me fait « Tu veux le garder ?» Je te dis « À quel moment ?»
Ben moi je sais pas encore, parce que là à l'échographie je sais qu'il y en a plusieurs et qu'ils font entre 2 et 5 mm. Donc...
Oh, ben un petit collier de perles.
Ouais, voilà.
C'est bizarre.
Faire des bijoux.
Ah ouais, je sais pas si tu connaissais quelqu'un qui collectionne les cailloux, quoi.
Quelqu'un qui aurait fait des études de géologie, peut-être, ouais. Qui aurait des kilos et des kilos de fossiles et de cailloux à la fois dans la chambre à côté de la mienne.
C'est ça, et puis il aurait fait biologie aussi et qui travaille dans le médical en ce moment. Enfin...
Moi je sais pas. Donc si vous connaissez quelqu'un comme ça. Bref, on parlait de peau. On parlait de peau, en fait.
Il est mort de rire. Il s'arrête pas.
En vrai, je ne demanderai pas à garder mon utérus parce qu'en fait, j'ai une hystérectomie partielle. Si vous voulez tout savoir. Et donc, du coup, il aura de toute manière pas une jolie forme. Il sera coupé.
Ah.
Oui, puis pareil, on va pas juste m'enlever, mais je vais pas avoir deux boobs à la fin de l'opération comme genre des prothèses de boobs.
J'apprécie vos disclaimers.
En plus,
Après, l'autre option, c'est de trouver un moyen de faire un enregistrement en 3D.
Des moulages ? Je crois qu'on nous l'a déjà proposé.
Ah oui, c'est vrai, on avait parlé moulage à un moment donné.
C'est difficile, bien pour moi.
Il faut couler un truc à l'intérieur.
Ah oh là là.
Ah, une fois qu'il est sorti, si on le gonfle. Qu'on clippe les trompes et qu'on clippe à la place du col qui...
Oh, ça me rappelle une anecdote. C'est que quand on veut... Mince. C'est quoi le mot déjà quand on empaille des animaux ?
La taxidermie.
Taxidermie.
Ouais. Quand on veut taxidermiser une chenille, bon, déjà, un, on la prend, on la fait sécher. Vignel !
Attention, non, le chat, lâche le chat.
Lâche le chat, là, taxidermisé, là, vous allez voir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, mais le chat, ça va être touché, là. Allez. Quand on cherche à taxidermiser une chenille, on la prend, elle meurt, enfin, elle est morte, a priori. Et en fait, il s'agit de la regonfler, et pour la regonfler, on insère une aiguille dans son anus, et on insère tout doucement de l'air, comme ça. Voilà, c'était l'infodème taxidermie.
C'était indispensable, et je pense que c'était parfait.
Tout à fait. En parlant de chenilles, donc, Niliane, est-ce que tu aurais des nouvelles à nous proposer?
Non. Ok. En parlant de chenilles, non. Non.
Non, mais parce que je fais des transitions stupides. Non, c'est la tradition.
Oui, mais c'était réussi. Merci.
Non, mais c'est parce que on est tous des personnes trans, du coup, on sort de notre crise.
Alors,
ça me fait penser à... Il y a un YouTuber qui s'appelle David Brian Gilbert, que j'adore, qui est super drôle et qui est vraiment qui fait des recherches insensées sur des jeux vidéo et genre qui a lu tous les livres qui sont dans Skyrim ou qui a fait toutes les timelines possibles de Zelda, etc. Et je fais partie d'un tout petit club de fans qui est convaincu qu'un jour David Brian Gilbert fera un coming out de femme trans parce que c'est évident et qu'elle sera très mignonne. Et en attendant, bah, on n'en sait rien, évidemment. Enfin, son prénom et pronom sont masculins, et voilà. Mais sa dernière vidéo sur son compte YouTube, c'est une chanson de 50 secondes qui se compare à une chenille. Et le titre de la chanson est « Ceci n'est pas une métaphore ».
Ok.
Et on est à ça, ça du coming out. Ou alors on est à ça de la personne qui est tellement emmerdée qu'on la compare à une femme trans et qui a envie qu'on arrête. Et c'est pas clair. Désolé, le message est pas clair.
Moi, je me suis demandé si c'était pas un mec trans et qui a jamais dit qu'il était mec trans aussi. Et du coup, voilà.
Waouh,
Mind blow. Wow.
Mais il y a des vidéos des vidéos qui ont été faites sur sa chaîne qui ressemblent aux premières vidéos de ContraPoints, en plus, enfin, à la fois dans le sujet, dans la façon de les filmer, dans les... Enfin, tu vois, il y a vraiment des connexions qui sont faites dans ma tête. Hein. Bref, pardon. Iléa ?
Oui, du coup, ce qu'on va faire, la manière dont on va s'organiser, c'est qu'on va faire un saut dans le temps. Parce que ça, on ne l'a pas encore dit.
Oui.
On enregistre en deux parties cet épisode. Donc là, on est à un certain moment dans le temps, c'est-à-dire, j'ai oublié la date du jour, le 14 septembre.
On est le 14 septembre.
On est le 14 septembre.
2021.
D'ici un peu plus d'une semaine, non pas Siri, chute. D'ici un peu plus d'une semaine, on va enregistrer une deuxième partie où on aura un retour de Louis, de Pau. Et du coup, également de Jenna, peut-être. Du coup, voilà, si jamais à la fin de l'épisode, voilà, il y a des effets sonores très bizarres que j'ai cherchés dans les confins des banques de sons libres de droit d'Internet, c'est peut-être pour signifier qu'il y a eu ce saut dans le temps.
One eternity later.
Non, il n'y a aucun effet spécial, c'est juste que bah, là, je parlais de l'opération que j'allais avoir et oh, voilà, ça y est, j'ai
fait. Ça y est, c'est fait.
Je suis juste très efficace.
J'allais dire, on l'a vu retirer, elle.
Yeah. Et ça continue.
Et ça reprend.
Bon appétit.
Écoutez-nous à dîner, évidemment. Bon. Est-ce que c'est à mon tour?
Allez, okay, vas-y.
J'ai du papier, vous entendez le papier?
Waouh, les effets spéciaux, c'est impressionnant.
C'est papier virtuel. C'est à mon tour, j'ai quelque chose un peu spécial à faire. C'est pas impossible qu'une certaine émotion s'empare de moi. Je vais essayer de faire mon mieux pour finir. Si je ne finis pas, vous qui écoutez le montage, n'y verrez pas tant de choses parce que j'aurais enlevé les grands silences, les plus grands silences. Mais voilà. pour vous expliquer un peu, j'ai dans ma famille juste une grande sœur. Voilà, j'ai une grande sœur. Je lui ai pas parlé depuis très longtemps, depuis pas mal d'années. Le contexte de ce que je vais vous lire, parce que là je vais vous lire une lettre, c'est que ben je lui ai reparlé il y a quelques jours. Voilà. Donc je me lance dans cette lecture. Il y a quelques jours, toi et moi, on s'est reparlé. Ça faisait 2 ans, 3 ans, je ne me rends pas compte. C'est peut-être plus. Il paraît que 2 sœurs qui ne se parlent plus jamais, je crois que c'est courant, quoi. C'est pas si rare. Mais tu es ma seule sœur, et je sais que tu me détestes. J'ai ce soir un condensé de tant de pensées à te lire. Mais avant de prendre un grand souffle et de vraiment commencer, je dois m'adresser à mes auditorices, à qui je dédie avant tout cette lettre. L'initiative, elle n'est pas forcément convaincante, elle n'est pas forcément évidente, mais je crois comprendre qu'elle est pour vous avant tout, pour mes Adelphes, et c'est eux qui m'aiment, et pour toutes les personnes qui ont des familles brisées. Donc merci d'avance de m'écouter, et j'espère vous apporter un petit quelque chose en ouvrant cette part de moi, et en ouvrant cette lettre à ma sœur. Juxtaposées, nos chambres ne se ressemblaient pas. Est-ce que tu t'en rappelles ? Moi, j'admirais de loin ton adolescence. Tu riais fort après 22 heures devant ton ordinateur. Je sais que c'est parce que tu discutais avec tes amis sur MSN. Est-ce que tu parlais de moi aux gens qui te plaisaient ? Ou aux gens à qui tu plaisais ? Donc là, maintenant, je sais que non. Parce que j'étais le petit frère chiant, maladroit, qui essayait trop fort d'être drôle en présence de tes amis et qui te mettait systématiquement mal à l'aise. Quand, bien plus tard, tu m'as confié que tu me haïssais parce que j'étais le gamin privilégié de nos parents qui ne pensaient qu'à toi en arrière-plan, je me suis excusé. Je me suis excusé probablement 1000 fois. Mais si je dois être honnête et réfléchir vraiment, uniquement 2 ou 3 fois très explicitement. Pourquoi je mentionne ça maintenant ? Parce que ce soir, c'est terminé. Oui, voilà, c'est terminé, c'est fini. Je ne suis plus désolé. Ni de cela, ni de rien. Je m'en fous. Juxtaposé, nos embrouilles avec les parents ne se ressemblaient pas. Est-ce que tu t'en souviens ? Dysfonctionnel à l'extrême, on leur en voulait tant ! Tu leur en veux toujours d'ailleurs, moi, mais moi non plus. Non, moi je leur en veux plus. Je suis sous le choc lorsque tu m'as dit, lors de notre reprise de contact d'il y a quelques jours, que tu te fichais du sort de maman, qui souffre actuellement de solitude, d'angoisse, et d'une dépression à peine diagnostiquée. Donc oui, tu attends à lui en vouloir, mais je ne comprends pas tout. En fait, je comprends certainement pas comment ça ne te toucherait pas. Juxtaposé, nos vies ne se ressemblent pas. Est-ce que tu le vois ? J'admire d'une immense distance ta vie de famille, celle que tu as construite, qui s'agrandit et dont je suis exclue. Elle n'inclut aucune femme trans, du coup. Aucune étrangeté qui me ressemblerait. Et en fait, c'est là le point culminant de ce qui m'assomme. C'est égoïste. Mais de toute façon, on a dit que je m'en foutais maintenant, que je sois égoïste. Mais c'est égoïste. Et je comptais sur elle, sur ta famille, pour connaître la naissance d'un foyer. De voir de tout près ce que ça fait, et puis d'en être un peu, quoi. Je ressens chez toi tout ce qui a motivé de vouloir m'en écarter. Il y avait la revanche d'une vie sur une enfance mal partagée entre nous deux. Les yeux de maman, tu vois dans les miens. Et comme une cerise sur le gâteau, l'inconcevable idée que je ne sois pas ton frère, mais plutôt une sœur que tu n'as jamais rencontrée. Juxtaposées, toutes nos ressemblances se sont arrêtées là. Alors on fait quoi maintenant? On se rappelle à nouveau, on se donne des nouvelles, on se tient au courant de nos vies. Je revois tes enfants et je rencontre ceux qui sont nés depuis. Ce ne sont pas du tout des questions ouvertes. Je pourrais croire. Non, j'ai une réponse franche et immédiate à te donner. Je dois te dire au revoir à nouveau. Peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, on en reviendra à ce point. Et peut-être avant ou plus tard, dans de pires circonstances. Et peut-être jamais. Dans cette lettre, je décide d'embrasser une merveilleuse idée. Celle de vivre avec le calvaire, de devoir t'oublier plus longtemps encore. Est-ce que tu crois maintenant que je suis sur le point de me justifier? Si oui, j'espère que tu sauras comprendre que bah, c'est ce que je viens de faire, en fait, malgré moi. Cette lettre ne t'est pas vraiment adressée. Je n'en vis ni réponse, ni réaction de ta part. Elle vient s'insérer entre deux soirs, passer à pleurer et à penser trop fort. Pour toutes mes sœurs, mes frères, mes adelphes que j'embrasse si fort. Expulsés de nos familles, on sait qu'on n'a aucune justification à offrir, sinon celle de trouver la paix. Pourtant, on meurt en essayant d'en trouver. Alors, je n'attends pas que tu obéisses, mais Anaïs, fous-moi la paix. Je ne sais pas si vous avez des réactions, si vous en avez, c'est avec plaisir, et sinon, il n'y a pas de souci.
Peut-être au montage, ce sera le moment de mettre la musique. Parce que si tout le monde est dans notre état, je nous vois mal enchaîner sur...
J'ai une vision horrible de tous les auditeuristes qui sont en train de se remettre des émotions, et puis la musique qui arrive, il fait ta 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 ta.
Attends, je vais la mettre sur, je vais la mettre sur le drive pendant qu'on se remet un peu de nos émotions.
Oui, sinon dans les. Vas-y.
Donc j'allais dire, je suis désolé en fait, genre, enfin, en plus en ce moment, j'ai tendance à avoir une hyper empathie et du coup je chiale beaucoup très facilement. Voilà. Merci pour ton passage, Liliane.
Merci à vous de m'écouter.
C'était très très bien écrit.
Oui, c'était merci. Très bon et très impressionnant.
3, 4. Sont personnes de grand courage, celles qui viendront avec nous. Sont personnes de grand courage, celles qui viendront avec nous. Elles ne craindront point les coups, ni les naufrages, ni l'abordage. Du péril seront jalouses, celles qui viendront avec nous. Celles qui viendront avec nous. Seront de hardis pilotes, celles que nous embarquerons. Seront de hardis pilotes, celles que nous embarquerons. Fine gabière dans la baston, je t'escamote toute une flotte. Bras solides et coups d'éperon, celles que nous embarquerons. Celles que nous embarquerons. Seront de fiers camarades, celles qui navigueront à bord. Seront de fiers camarades, celles qui navigueront à bord. Faisant feu, bâbord, tribord, dans la tornade des canonnades. Vainqueurs entreront au port, celles qui navigueront à bord. Celles qui navigueront à bord. Et adeptes de tout rivage viendront bourlinguer avec nous. Et adeptes de tout rivage viendront bourlinguer avec nous. Des bateaux venant de partout feront voyage dans nos sillages. Vent arrière ou vent debout viendront bourlinguer avec nous. Viendront bourlinguer avec nous. Et c'est nous vaillantes et fières qui donnerons l'ordre du départ. Et c'est nous vaillantes et fières qui donnerons l'ordre du départ. Vite en mer et sans retard, faisons la guerre à notre manière. Car ce n'est pas le hasard qui nous commandera le départ. Qui nous commandera le départ. Qui nous commandera le départ. Qui nous commandera le départ.
Hey. En vrai, c'est cool, hein. On a très envie de mettre une instru derrière et tout, un truc un peu épique.
C'était la chorale queer de Montpellier, à laquelle j'ai le plaisir de pouvoir participer. Et du coup, c'était Les Corsaires, une chanson de pirates réinterprétée de manière un peu plus queer, qu'on a enregistrée avec trois voix différentes. Et du coup, moi, j'étais dans les basses. Voilà.
Bravo!
Ah, les trois voix, oui, The Three Genders.
Exactement. Exactement.
Il n'y a pas un truc comme ça, genre la voix du milieu, la voix de l'ombre, la voix de la lumière.
Ah oui, d'accord.
Les Jedi, les Sith et Ahsoka Tano.
Donc là, on arrive. On arrive à la faille spatio-temporelle.
C'est là où on va tous appuyer sur le petit bouton qui va nous faire sauter une semaine à peu près.
À peu près, voilà.
Insert bruit de Doctor Who.
Donc, comme je le disais, on se retrouve immédiatement pour la deuxième partie. À tout de suite. Ouais, c'est parti. Louis en version fête foraine. C'est parti.
C'est parti, pour la suite.
Si on n'avait pas vu Louis galérer juste pour lancer l'enregistrement, on pourrait dire qu'il s'est même pas fait opérer, quoi.
Non, mais ça va. C'est parce que j'ai passé les moments les plus douloureux, et parce que du coup, là, je ne bouge absolument pas mes bras. Comme ça.
Donc ça y est, on a fait le bond dans le temps. On est une semaine après l'enregistrement de la première partie. Et on va tout simplement interviewer nos deux personnes favorites qui reviennent d'une étape favorite.
Il nous manque des parties du corps.
Ouais.
Ah. Il nous manque vraiment ?
Non, c'est bien en fait.
Vous avez enlevé des excroissances.
Exactement, c'est ça le terme.
Tout à fait. C'est vraiment ça, putain.
Des appendices, sinon.
Alors, dans l'ordre, c'était dans quel ordre la dernière fois ? C'était Louis d'abord ou c'était Pau d'abord ?
Ah, c'est Louis qui a été opéré avant ?
Non, c'est moi qui ai été opéré avant.
C'était toi en premier ?
Le brancardier qui m'a ramené dans ma chambre m'a dit que j'avais une très bonne mémoire et que j'étais très sharp au réveil dès le début.
Est-ce que je peux ressortir ce que tu m'as dit quand je t'ai demandé comment ça allait ? Et que littéralement tu m'as sorti, ah, ils m'ont donné de la morphine et laisse-moi te dire, c'est de la bonne.
Et c'était vrai.
Ouais,
c'était de la bonne parce que la douleur a disparu.
Oui, tout à fait.
Et ça, c'était vachement bien parce que je me suis réveillée. C'est très bizarre. Est-ce qu'on commence déjà à raconter comment ça se passe?
Oui, oui, ah, oui, okay. Oui.
Louis, tu veux passer d'abord ? Je passe d'abord ? Comment on fait ?
Non, non, vas-y, vas-y. Okay. Tu t'es parti, vas-y.
Donc, hystérectomie partielle et on enlève les trompes aussi. Je me rappelle plus comment ça se dit.
Subtotale. Subtotale dans ton compte-rendu d'opération.
Oui, subtotale, ça veut dire qu'on laisse une partie de l'utérus.
Ouais.
Mais on a aussi enlevé les trompes et ça, c'est une sapingectomie. Je sais plus, je l'avais dit la dernière fois.
Ouais.
Un mot qui permet de gagner au Scrabble, mais très difficile à placer dans des conversations. Et donc, du coup, moi, ce dont j'avais très peur, c'était tout ce qui était autour de l'opération, le fait de mettre des aiguilles avec des trucs partout, des produits, des choses comme ça, parce que je fais très facilement des malaises vagaux. Et je me voyais faire un malaise vagal juste au moment où on allait devoir m'opérer et compliquer tout le truc.
Ce qui est un gros gain de temps et d'anesthésie, peut-être. Hein.
Oui, mais le rythme cardiaque moyen, quand même. Bon. Et donc, du coup, je pensais que j'allais être très stressée juste avant l'opération, pendant tout le temps, juste avant l'opération. Je suis arrivée à l'hôpital. Ils m'ont mis sur un brancard lit, on m'a préparé, on m'a emmenée en salle pour attendre l'opération. J'ai dormi, j'ai fait deux siestes avant l'opération. Alors que je... Enfin, bon, voilà. Et ensuite, quand ils m'ont emmenée jusque la salle d'opération, on m'a donc injectée avec un liquide blanc pour m'endormir. Et littéralement, Parce qu'ils m'ont posé des questions sur oui, est-ce que vous avez des allergies, est-ce que ceci, on va vous faire quoi, vous sentez bien, machin et tout. Littéralement, je me souviens de la dernière phrase que je disais, et à un moment donné, quand j'étais sur un mot, ça a coupé, net. Et j'ai rouvert les yeux et j'étais en salle de réveil, et j'avais mal et j'avais soif. Voilà.
C'est impressionnant.
J'aime vraiment le fonctionnement de ton cerveau, moi.
Non mais c'est coupure spatio-temporelle. Donc en fait, on n'a pas le temps de stresser.
Moi, j'aime bien que tu aies eu du stress jusqu'à arriver à l'hôpital, enfin jusqu'à ce que tu ailles sur le brancard en fait, et que après, ça devenait inéluctable. Et t'as relâché le stress à ce moment-là et t'as fait les siestes. Et pour moi, c'est genre, t'as zéro regret, pas de questions, c'est fini, c'est bon, c'est fait, quoi. C'est...
Depuis que l'opération est passée, je suis super... Enfin, je suis que dans le « Yeah !» J'ai plus de terreuse, « Yeah !» Plus aucun stress, là, ça, tout va bien.
Les dernières règles.
J'ai évité les règles à 2 jours. J'étais là. Un dernier fuck you.
J'avoue. Sorry, t'imagines, genre, si tu devais te les enlever pendant que t'as tes règles, ça doit être trop chiant pour eux.
Mais oui. Genre, tu commences à avoir tes règles et puis tu te réveilles et. Ah non.
Nope.
Mais du coup, j'ai dit sur Twitter que, en fait, c'était mon cycle menstruel le plus efficace de ma vie. Vous avez le fantasme de pouvoir dire oh non, j'ai mes règles, hop, j'enlève tout d'un coup, je l'ai fait.
Flush. C'est un gros coup de chasse d'eau interne.
C'est ça. Donc voilà, et sinon, depuis, je peux pas trop bouger parce que ça fait très mal au niveau des abdos en fait. Il y a 4 cicatrices sur mon ventre et les 3. Il y en a donc une qui est du côté pelvien, 2 sur les côtés et une au niveau du nombril. Et en fait, les 3 vers le bas, elles font pas vraiment mal. Enfin, j'imagine que si tu tapes dedans, oui, ça fait mal, mais je les sens pas. Et celle au niveau du nombril, par contre, elle est pile sur les abdos qui doivent bouger quand tu te lèves, ou tu respires un peu fort, ou tu rigoles, ou un truc comme ça. Et c'est... Du coup... Tu réfléchis beaucoup avant de faire un mouvement. Et généralement, tu fais « Non, non, c'est bon, je vais faire une sieste. » Voilà, donc j'attends que ça passe. Et sinon, un truc aussi qui peut peut-être aider des personnes qui auraient envie d'avoir une opération avec anesthésie générale, il faut savoir, je ne le savais pas, j'ai découvert, que les effets de l'anesthésie générale après, c'est souvent plus fort à J+1, pas J0. C'est-à-dire que si on te fait sortir de l'hôpital le jour même parce que t'es en ambulatoire, il y a une raison, c'est que t'es encore mobile et que ça va, t'as pas trop de vertige. Et le lendemain, généralement, t'es complètement shooté et t'as la tête qui tourne et voilà.
Et je trouve ça fun, la stratégie de l'hôpital, qui est de dire, non, non, si on la garde une nuit,
c'est la merde.
On n'arrivera pas à la faire sortir, en fait, ça va être compliqué. On va s'en débarrasser maintenant.
C'est exactement ce que j'allais dire, c'est vraiment... Vraiment, vite, faut qu'elle parte maintenant.
Voilà, mais donc prévoyez, si vous avez une anesthésie générale dans le futur, pensez pas, le lendemain de mon opération, quand je serai chez moi, j'irai chercher mes médicaments, je me ferai à manger, tranquille. Non. Le lendemain et les quelques jours après, tu vas juste... moi, en tout cas, c'était difficile de bouger à la verticale. Voilà. Mon retour d'expérience.
Eh bien, merci, Percy.
Je trouve super impressionnant la préparation de peau pour cette opération. Parce que elle a cuisiné l'équivalent de repas pour 10 jours, qui sont numérotés, étiquetés à la fois dans le frigo et sur une feuille qui est posée à côté d'elle dans le lit. Et donc, elle me demande de lui amener des trucs, et après, elle les coche sur la feuille. Et donc, elle fait exactement l'inventaire dans le frigo. Non mais en même temps, pour nous épargner une charge sur nous deux qui vivons avec elle et son partenaire qui est venu aussi pour s'occuper d'elle, c'est très impressionnant quoi d'avoir endossé tout ça en plus du stress de l'opération avant l'opération.
J'ai un petit secret, je gère le stress en me sentant en contrôle, en organisant des trucs.
Oui, oui, bah c'est un métier. Hein.
Donc chouette expérience, ça va.
Bah écoute, oui, j'en serais pas à dire je recommande, parce que bah il faut quand même avoir envie d'enlever son utérus, mais si t'as envie d'enlever ton utérus, je recommande.
5 étoiles.
5 étoiles.
Ouais, et pour mentionner 4 cicatrices, d'après ce que je vois à travers les pansements, c'est vraiment moins d'un centimètre. Chaque cicatrice, c'est des trucs qui, une fois cicatrisés, on aura du mal à les trouver sur la peau. C'est pas des cicatrices de mammectomie, par exemple, pour faire une transition.
Alors oui, parce que du coup...
Transition.
J'avais pas autant préparé à l'avance, moi. Genre, j'ai vraiment juste préparé chez qui j'allais être. Et genre, vraiment, hier soir, c'était « Bon, on fait quoi à manger cette semaine ?» Mais du coup, j'ai eu droit à des muffins carottes chèvre très bons, donc je suis très content, genre, on s'occupe très bien de moi. Voilà. Moi, j'étais en hospitalisation et pas en ambulatoire, donc je suis resté à peu près 2 jours et demi à l'hosto. Donc je suis arrivé le vendredi matin, en mode... Genre t'arrives, on te prend, et puis t'es là en mode bon bah ça y est, on y va, t'es là ok, genre on te demande d'enfiler les trucs de sto, genre bleu machin, genre avec un petit slip aussi, genre pour pas qu'on voit trop ton cul non plus, qui est trop...
Je confirme, hein, très saillant.
Mais oui, c'est une sorte de résille, je savais pas que j'avais cet intérêt, pardon, continue.
Mais du coup, genre, c'est vraiment genre un slip un peu de toute taille, et du coup genre moi on voyait vraiment juste le bout de l'arrêt de mon cul, tu vois, genre bref, des détails dont on se fout.
Je tiens à dire que moi j'ai pas eu droit à un slip vu l'opération que j'allais me faire.
Et genre en vrai ça allait, j'étais un peu stressé au début, mais genre vraiment une partie du moment où j'étais un peu stressé parce que j'étais en mode oh mon dieu, en fait j'aurais dû prendre une douche ce matin et on m'avait pas dit, et du coup oh là là, et en fait j'avais pas pris de douche, enfin tu sais, je m'étais pas lavé les cheveux, et du coup j'étais ah merde, et du coup je pensais que genre on allait me faire une douche à la bétadine en arrivant, mais pas du tout, j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, genre j'ai commencé à me changer. Et il y a une infirmière qui arrivait en mode ah c'est bon on l'emmène, j'étais ok très bien, bon bah allons-y. Et du coup ils te font descendre un petit truc, ils ont des petites chaussettes antidérapantes aussi, c'est marrant.
Et t'es parti avec ou pas?
Non, je les ai pas récupérées,
mais...
Non mais parce que je suis allée voir Louis à l'hôpital parce qu'il s'avère que j'étais de passage sur Paris. Bah oui, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la première partie de l'enregistrement, pour aller à l'assemblée du collectif Archive LGBTQI. Et je suis allée rendre visite à Louis, et il y avait notamment sur son lit ces très très belles chaussettes rouges avec des petites marques antidérapantes noires. Et je suis carrément déçue que tu les aies pas pris. En fait, j'aurais dû les prendre.
Bah allez, c'est la personne à l'hôpital qui embarque tous les trucs, genre le savon, le shampoing, les petits échantillons.
J'ai eu tout un set de trucs Occitane de Provence que j'ai gentiment récupéré. Hein, genre.
Mais c'est un hôtel.
Ah.
Mais en fait, c'est parce que du coup, comme je suis en privé, genre vraiment, alors, pour le coup, l'histoire aussi là-dessus, c'est que donc j'étais en hospitalisation parce qu'ils devaient m'observer et me changer les pansements après. Et genre vraiment, ils te font un check-up. Enfin, bref. Du coup, le truc, c'est que j'étais forcément. Enfin, c'est un hôpital privé, du coup ils ont plusieurs offres. J'étais forcément dans une offre chambre seule avec wifi et télé, parce que le truc de base, avec le minimum de frais supplémentaires, c'est dans une chambre double. Et comme t'es trans, on sait pas si on te met avec un homme ou une femme, du coup t'es obligé de payer le service tout seul.
Sympa la taxe.
Voilà, du coup j'ai payé 300 balles alors que j'aurais pu en payer 50 pour une autre opération.
Est-ce qu'il y a une prise en charge mutuelle, quelque chose ou...
Ah non, que dalle, parce que... Enfin oui, ça aussi, je ne l'ai pas expliqué à l'épisode d'avant. Mais alors, de base, le trick que je devais avoir...
On est dans le même épisode. Hein.
Ah oui, pardon, dans le même épisode. Pardon. Le truc que je n'ai pas expliqué dans la partie 1, c'est que je devais passer en réduction mammaire. Donc... Ça devait être en mode, comme je suis encore F sur ma carte d'identité et que j'avais un certain volume de poitrine, ça pouvait passer en mode, bon, on lui fait une réduction mammaire pour son dos. Sauf que du coup, j'ai commencé la testostérone, j'ai fait du sport parce que je me suis dit, il faut que j'ai des pecs pour avoir un résultat cool. Et j'ai perdu de la masse graisseuse, notamment au niveau de la poitrine, parce que la testostérone, ça répartit votre graisse. Du coup, je suis arrivé 2 semaines avant l'opération pour mon rendez-vous préopératoire et il m'a fait t'as perdu trop de poitrine, on peut pas te faire passer en réduction mammaire, du coup tu vas payer 5000 balles au lieu de 3500 et rien ne pourra être remboursé. Et j'étais acheté. Très bien, je n'ai pas cet argent, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et du coup, voilà, c'était donc zéro prise en charge mutuelle, zéro prise en charge sécu, parce que si j'avais voulu faire une prise en charge par la sécu dans le cadre d'une transition, il aurait fallu que je justifie d'un an de suivi psychologique et endocrinologique et qu'il y ait eu une réunion collégiale d'un endoc, d'un chirurgien et d'un psychiatre pour témoigner que oui, j'ai bien de la dysphorie et que oui, je peux bien être remboursé.
C'est les règles sauf acte, quoi.
C'est ça. Que j'ai appris plus tard, qui sont genre... tu peux quand même faire un dossier et demander au défenseur des droits d'approuver ton dossier.
Oh, ça c'est bien.
Parce que c'est pas justifié c'est pas justifié qu'il y ait cette attente-là, en fait. Donc, mais je l'ai su qu'après en relisant un article.
Mais c'est s'engager sur attendre.
Oui.
Le rendu du défenseur des droits, quoi.
C'est ça. C'est genre des démarches en plus. Et j'avais attendu ça. Genre j'avais tout préparé. Tu me dis 2 semaines en avance, je vais pas te dire. Non, on décale, tant pis. Bref, pardon, je fais beaucoup de détours parce que ça a été beaucoup de process de...
Non, mais c'est la morphine, on comprend. Hein.
Morphine, je suis sous codéine.
On organisera au montage.
Bonnet blanc, bonnet.
Du coup, en fait, pour m'endormir, c'était pas tout à fait pareil parce que, genre, vraiment, on m'a amené, genre, en plus, c'était genre, au sous-sol. Du coup, on t'amène sur une espèce de chaise, on te met une espèce de drap dessus. Du coup, t'as un espèce de petit burrito et t'attends. Que le chirurgien va te voir dans ton petit burrito. Et après il arrive et il a été trop cool, genre il te dessine dessus, il était vraiment genre personnalisation, genre oui du coup t'es téton, qu'est-ce qu'on fait, on les place où, quelle taille, machin, les aréoles, machin, tout ça, et du coup t'as été ok, bah vas-y on fait ça. C'est super drôle. Super, il a été super rassurant, toute l'équipe était super sympa, et du coup moi ils m'ont posé des questions avant de m'endormir, tu sais, genre pas d'allergie, t'as bien un genre machin. Et après, ils te mettent le petit cathéter dans la main, ils te font respirer un truc. Je me souviens juste qu'on m'a fait « Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous aimez les voyages? Pensez aux voyages. » Et j'ai juste fermé mes yeux, et puis après, je me suis réveillée.
C'est mignon.
Ah, le truc qu'ils te font respirer, je sais pas si c'était pareil pour toi, mais pareil, moi, j'avais un masque sur la figure, et en fait, ils m'ont expliqué qu'ils me faisaient respirer de l'oxygène pur, parce que au moment où ils t'endorment sous anesthésie générale, il y a un moment donné où t'es pas encore intubé, et donc il peut y avoir un manque d'oxygène. Donc on est en train de te demander de respirer très fort dans le masque pour gorger tes poumons d'oxygène, et ensuite quand tu commences à t'endormir, hop, ils attrapent le tube, ils mettent le truc et tout, mais il y a un petit moment où sinon tu vas manquer d'oxygène. Et donc ils étaient en train de dire « Respirez très fort, respirez très fort !» Et j'ai commencé à respirer très fort, puis ça continuait. Ils disaient « Oui, continuez !» Après, on vous endort. J'étais là. À un moment donné, il va falloir que, quand même, on arrête le respire très fort, l'oxygène. Parce que la suroxygénation... Ah, pardon, la suroxy... Non, je vais y arriver. C'est la morphine. La suroxygénisation. C'est ça ?
J'ai l'impression qu'il y a une syllabe en trop.
Il y a une syllabe en trop. Quand il y a trop d'oxygène dans le sang... Ça peut déclencher des crises d'épilepsie.
Chez toi.
Chez quasiment toutes les personnes épileptiques, c'est un truc pour faire... quand tu dis à ce côté épileptique, respirez très fort. Ah bah oui, elle est épileptique. Et donc j'étais en train de commencer à me sentir partir, mais pas dans le bon sens, tu vois.
T'avais le choix entre un malaise vagal... et une crise d'épilepsie. Et heureusement, on t'a anesthésié juste avant.
Ça va vraiment pas le faire. Dépêchez-vous. En fait, si ça se trouve, je pense que j'ai pas dû m'endormir aussi abruptement. C'est juste que j'ai perdu la capacité de retenir des choses en mémoire longue.
Oui, t'as fait une crise, en fait.
Et il est possible que j'ai fait une crise et que je m'en souvienne juste pas.
C'est la crise la plus longue de ta vie.
Je me souviens juste vraiment avoir genre fermé mes yeux. Genre, tu sais, en mode, je vais fermer mes yeux. Et puis, du coup, c'est bon.
Ouais. C'était mon expérience pour l'opération de la gorge aussi. Le côté burrito. Et ensuite, en plus, c'était une salle qui était super froide. Je sais pas si c'était le cas pour vous aussi.
Moi, j'avais grave chaud. Mais genre, je pense que... Parce que tout le monde est en mode, il fait froid, non? Et moi, je crève de chaud. Mais...
C'est la testo.
Du coup, j'ai connu aussi le burrito... Ouais. Moi, c'était pour une orchidectomie. Mais en fait, c'était une ciel très froide également, ouais. Mais le burrito, il était chaud. C'était un truc
oui,
préchauffé.
Il y a une couverture chauffante. Et quand je suis arrivée, elle était éteinte. Et moi, je grelottais. Du coup, la personne qui devait me perfuser la main a raté la perfusion. J'avais un gros hématome sur la main après. Ils m'ont percé plus haut dans le bras parce qu'ils avaient raté la main.
Moi, ils m'avaient fait ça pour mes dents de sagesse où ils m'ont piqué 5 fois avant de trouver une veine. Mais bref.
J'ai fait peur à l'infirmière qui devait me faire la perfusion parce que j'ai commencé à dire oui, malaise vagaux et tout. Donc, en fait, moi, je fais des malaises vagaux si on met un garrot trop fort. C'est la pression. C'est une réponse physiologique, en fait. Et donc, elle est là. Oh, mais j'aime bien mettre les garrots forts d'habitude.
Chacun son kink.
Oh merde.
Et donc elle a mis les garrots tout doucement. À un moment donné, je lui ai même dit non mais vous pouvez quand même serrer plus fort. Là, je le sens à peine. Non non non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Et je sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien sur ma main parce qu'elle a fait ça tellement bien. On voit à peine un petit point qui dit qu'il y a eu une piqûre.
Je suis très fière de moi. J'ai fait mes premières injections sur quelqu'un d'autre. Aussi, parce qu'il faut donner de l'anticoagulant à peau tous les jours.
Oui.
Et mon expérience sur moi a enfin servi sur quelqu'un d'autre et ça a marché.
Ah oui, c'est service luxe à la maison. Hein.
Est-ce que vous avez des questions à leur poser à Louis et à peau?
Moi, j'ai peut-être plus de trucs à raconter parce que du coup, le réveil, ça a vraiment été un et neuf. Et en fait, genre, souvent, on me réveillait pour genre, me prendre ma tension et genre, checker mes pansements et me donner des antidouleurs. Et pour le coup, du coup, c'était super bizarre parce qu'il y a plein de trucs dont je me souviens dire des trucs, mais je me souviens pas voir des trucs. Genre, je devais avoir les yeux fermés et juste parler, tu vois, genre. Et d'avoir trop du mal à respirer parce que j'avais la gorge super sèche. Et genre, je pense que, genre, faudrait que je regarde, je pense que je fais de l'apnée du sommeil si je dors sur le dos, parce que j'ai vraiment l'impression que, genre, il y a un truc de ma gorge, en fait, qui se colle, en fait. Genre, voilà. J'ai appris après aussi que j'avais les yeux légèrement ouverts pendant l'opération, ce qui fait que j'ai peut-être une mini conjonctivite, je crois que ça s'appelle. Genre, en gros, j'avais les yeux qui pleuraient à l'hosto tout le temps, parce que, genre, dès que j'ouvrais, je devais faire mes yeux et que je les ouvrais, genre, les yeux qui piquent. Donc,
C'est stressant pour l'équipe en plus. Merde, il est en train de se réveiller vite.
Oui,
il pleure sur la table d'opération. Non.
Non, en vrai, j'ai rien. Les premiers jours, les douleurs, ça allait. Franchement, les plus grosses douleurs que j'ai eues, c'est parce que je devais dormir sur le dos parce que j'avais 4 drains. Genre vraiment, genre j'avais en fait juste au-dessus, vers la limite des aisselles et du coude, enfin des épaules, et genre juste en dessous des pecs. Et du coup, le truc, c'est que bah, genre, j'avais plus un pansement compressif, donc je ne pouvais pas bouger sur le côté, parce que sinon, bah, genre, j'étais sur mes drains, ça faisait mal. et du coup, c'était surtout ça qui m'a fait mal les premiers jours, plus que genre, la torsion en elle-même. Et j'ai moins de pertes de sensations que ce que je pensais aussi, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Et le chir est passé me voir samedi pour voir comment ça allait, tout ça, enfin, en mode « Ouais, tu vas avoir un beau résultat, c'est cool et tout. » Je... Ok, parfait. Et du coup, j'ai juste entreaperçu vite fait les cicatrices qui sont du coup très droites. Alors, un truc que j'avais peur, c'est que des fois, ils font, pour les doubles incisions, ils font légèrement remonter vers l'intérieur. Et moi, j'aime pas trop, j'aime bien quand c'est droit. Et du coup, il a fait vraiment un truc très droit et qui remonte sur les côtés.
Tu lui avais dit ou c'est un hasard?
Oh, c'est un hasard parce que j'ai oublié de lui dire. Alors vraiment, un conseil que je peux donner pour les gens qui vont faire une mammec, prenez des photos de référence de mecs opérés si vous en avez. Enfin genre bah il y a le American Boys qui est un bouquin de photos de mecs trans que je cite souvent parce que c'est celui que j'utilise beaucoup pour genre en mode ah il y a plein de cicatrices différentes et de gens opérés de manière différente. Et du coup pour voir un peu les cicatrices que vous voulez, les placements que vous voulez sur les tailles et tout ça de d'aréoles. Et de bien penser à le faire avant et de genre vraiment tout placer parce que des fois il y a des trucs qu'on oublie et genre il y a plein de trucs que j'ai pas osé demander. Genre j'avais vu des mecs avec juste une cicatrice toute droite sur genre tout le truc de la poitrine. Je me suis dit ah ça, enfin genre moi si je peux avoir ça c'est cool. Au final j'ai pas ça mais c'est pas grave, genre enfin c'est parce que c'est droit quand même donc tout va bien. Mais plein de petits trucs comme ça où enfin faut vraiment pas hésiter parce que enfin c'est pour votre résultat final pour genre à peu près toujours, donc autant que vous en soyez content. Moi j'en suis content en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que du coup le truc aussi c'est que quand on t'enlève le pansement, bah comme c'était bien compressé tout ça, c'est genre un peu tout beau, enfin genre t'as une cicatrice rouge, enfin t'as genre une ligne rouge là où il y a où ça a été coupé, et juste les dessins de là-haut de charcuterie comme genre sur les trucs de boucher quoi. Et les petits pompons sur les tétons, parce que du coup quand on fait une double, enfin mais même en fait quand on fait le péri en fait, on enlève les tétons, les aréoles, et après on te les regreffe, et du coup bah on te met pas juste des points tout autour de ton aréole, genre juste on met du coton. Et du coup, ça fait des petits pompons à la place des tétons.
Mais alors ça, c'est un nom. Je crois que c'est des points en bourdon.
Je crois que c'est ça. Ah, ça me dit quelque chose. Ça doit être ça.
T'as dit un truc, non? Parce que moi, on m'avait fait ça, mais... où ils avaient cousu une... En plus de coudre ma peau, une compresse. Mais c'était pour un grain de beauté sur le crâne.
J'ai appris aussi, c'est qu'en fait, les drains, ils te mettent des points de suture pour tenir les drains. Ouais. Et je te... Oh, en vrai, les drains... C'est le truc, je trouve, qui faisait le plus flipper. Genre, du coup, c'est le truc le plus impressionnant, le plus flippant, parce que tu dis, ça va faire giga mal, parce que c'est giga long. Et en fait, ça va. C'est juste que c'est hyper bizarre, parce qu'on t'enlève un très grand truc, et que, en fait, bah. Je vais pas rentrer dans les détails.
Non, mais en fait, c'est pas énervé à l'intérieur. Non, du coup, voilà, c'est psychologiquement effarant, mais.
Et du coup, c'était juste le plus impressionnant, c'est quand elle te le retire et qu'elle te le montre à côté, et que t'es là, t'es. C'était donc tout ça.
Je suis assez contente qu'une fois qu'on enlève l'utérus, bah, c'est fini, c'est bon, on a tout refermé, on plus... n'y touche plus.
Oui, parce que je pense que en vrai, la mamèque, le plus dur, c'est pas l'opération en elle-même, en fait, c'est ce qui vient après. Genre, là, on m'a enlevé le bandeau et on m'a mis un bandage compressif, mais t'as tout le stress de « est-ce que c'est compressé assez ?» Je vois le chirurgien demain pour qu'il enlève les petits tétons, mais après, du coup, j'ai genre encore 4 semaines à porter le boléro... je peux pas l'enlever pendant encore une semaine. Enfin, c'est tout un truc où, en fait, bah, genre, j'ai vraiment, enfin, j'ai fini la première étape que dans un mois, en fait. Quand tu pourrais enlever le boléro, c'est it's a process. faut le savoir. Ce qui est un peu frustrant parce que j'arrête pas de regarder des trucs de TikTok en mode des gens qui sont post-mamèques et qui commencent à remettre des trucs. Genre, j'ai vu une personne mettre des robes après sa mamèque et genre où c'est juste le rendu est trop cool. J'étais en mode oh mon dieu, je veux trop pareil. Et j'étais en mode eh, mais du coup, faut que j'attende.
Déjà, juste pour pouvoir lever les bras pour l'enfiler.
Robe de fou, voilà. J'ai pris que des chemises et j'ai bien fait. C'est pour ça que je suis habillée en fait, c'est que j'ai pris que des chemises. Et ça marche très bien.
C'est très intelligent.
Mais attends, mais du coup, par contre, t'avais oublié de te raser les aisselles, oui. Et ça va, ça t'a arraché les poils ou pas?
Alors oui.
On rentre dans le détail.
Alors faut savoir que rasez-vous les aisselles si vous faites opérer d'une mamèque, parce que le bandeau compressif en fait monte très haut jusque sous les aisselles, et que du coup, bah, j'avais genre une partie de mes poils qui était complètement scotchée.
Et là, t'as plus d'anesthésie générale après.
Bah alors, ouais, mais j'ai quand même des médocs genre. J'ai du paracétamol codéiné et j'ai du paracétamol tout court. Et donc ça va. Et on m'en donnait régulièrement. Entre les moments où on me réveillait pour prendre ma tension et ma température, genre t'es au milieu de la nuit, t'es là, t'es genre en mode t'as enfin réussi à t'endormir et là t'as un infirmière qui rentre et fait bonjour pour la tension. Et t'es là, il est 2h du mat.
Il y a eu. On coupera si peau est pas à l'aise avec ça, mais avant l'opération, il y a une infirmière qui est arrivée alors qu'elle était en train de mettre les vêtements en papier de l'hôpital, genre vous avez rasé en bas là, et puis bah je sais pas, enfin un petit peu comme d'habitude, et puis l'infirmière très comme matriarcale, non mais on va vous raser ça, et puis en fait non, manifestement okay. Elle savait pas.
C'était un petit peu parce que en plus ils s'en sont pas du tout occupés avant l'opération, parce que je me disais à la limite oh zut je l'ai pas fait. Ils vont venir me voir, ils vont me dire voici un rasoir, allez hop, dans la douche, vous faites tout ça, 5 minutes, hop hop hop, on y va, pourquoi pas. Personne n'est venu me voir pour ça, et puis finalement on est venu me voir pour m'emmener en salle d'attente avant l'opération, mais donc dans le brancard, sans rien, et puis ensuite on m'a emmené dans la salle d'opération, et on a commencé à m'endormir, je me disais, est-ce qu'ils vont faire ça pendant que je dors? Enfin, j'étais... Je sais bien que c'est stupide parce qu'ils te font des trous et puis ils te mettent des objets, du gaz, tout ça. Mais j'étais pas particulièrement à l'aise avec l'idée que... Et en plus, ils prennent un rasoir et ensuite, ils vont te raser partout, voilà. Et parce que quand même, c'est un peu intime, tout ça. Enfin, ils vont faire ça comme des cochons, en plus. Et en fait, je me réveille et j'ai pas pu voir tout de suite. Parce que, tu te réveilles d'une hystérectomie juste... tu ne bouges plus, hein, tu fais oh non, je vais respirer doucement. Et puis quand les médicaments, moi aussi j'ai eu du paracétamol, du tramadol après la morphine. Donc
j'ai eu tramadol aussi les moments où c'était vraiment dur.
Ah, c'est pas mal, hein. Enfin bon, le trifecta, morphine, tramadol, paracétamol, tout ça. Voilà. À un moment donné, j'étais pas si mal que ça. Et donc, quand mon copain est venu me chercher à l'hôpital, il m'a aidé à me lever. Et j'ai fait, attends, avant que je remette des vêtements, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu peux me dire si ça a été rasé? Et c'était pas rasé, donc je sais pas, je comprends pas. Mais il est possible que l'infirmière ait pensé qu'il fallait passer par voie basse, alors qu'en fait, moi, j'avais juste une célioscopie, donc...
Là aussi, où t'as une hystérectomie subtotale, donc partielle, c'est qu'on laisse le col de l'utérus.
Oui.
Et il y a des gens qui ont une totale, qui enlèvent le col de l'utérus, du coup, qui raccourcit le vagin, et là, nécessairement, ils doivent passer par voie basse, parce qu'il va y avoir des trucs qui coulent, quoi.
Ouais.
Pardon, c'est gore.
Bah, elle est en panique.
Ça fout. En fait, à la fois, au fond, ça me dérange pas. Moi, la médecine, ça m'intéresse et tout. C'est vraiment un sujet de curiosité. Mais c'est vrai qu'ensuite, quand je pense à ce qu'on est en train de dire sur mon corps, je panique. Je me sens pas hyper bien. Non, mais c'est pas grave. Hein. En vrai, je vais très bien dealer avec, mais c'est juste qu'il faut que je gère ces émotions-là. Et même quand je suis allée voir Louis, j'étais là en mode oulala, bientôt mon tour. Mais... Avec un peu de chance, parce qu'a priori, il me manque toujours 5000 euros. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais là, oulala, l'hôpital, les gens, non.
En vrai, ça dépend des endroits et des équipes, hein. Mais ils ont été vraiment très sympas. J'ai un papier du médecin maintenant sur le compte-rendu d'opération qui spécifie que je suis à genre.
Ah oui, on a vu, excellent.
C'est un peu
trop stylé, je suis très contente.
Ça fait jurisprudence.
Mais c'est ça, t'as fait. Par le médecin. J'ai littéralement un mot du médecin.
Moi, Cher avait fait pareil en mode oui, du coup, sur ses papiers, il y a son prénom de naissance, mais vous l'appelez Louis, hein, genre tout le monde. Et à un moment, le premier jour, il y a une infirmière qui m'a appelé madame et l'autre infirmière a fait non, c'est monsieur.
Très bien.
On peut conclure?
On veut manger.
Ici, on n'a pas mangé, juste pour l'histoire. Voilà, hein, bon.
Non, on a mangé avant, donc on continue. Hein.
J'avoue, moi aussi.
Bon, merci Louis, merci Po. Pour les updates, merci à Malé qui est allé voir Louis, et merci au chirurgien qui est en fait le même de plusieurs personnes, j'ai pas tout compris.
Merci à Jenna qui s'occupe de Pau.
Merci à Jenna qui s'occupe de Pau. Merci à Mary qui m'héberge ce soir pour l'enregistrement de la deuxième partie.
De rien. Merci à Mélodie et Dodo. Mélodie qui me loge, Dodo qui m'a tenu compagnie aujourd'hui, parce que je sais que Dodo, elle écoute les épisodes. Voilà, merci.
Et merci à Kat d'être là pour la deuxième partie aussi. Et je sais plus de quoi on avait parlé, mais en tout cas, tout ce dont on a parlé est en note d'épisode. C'était il y a une semaine.
Le saut dans le temps, ça attaque la mémoire.
Oh oui,
c'est comme une anesthésie d'une semaine.
C'est un peu ça.
Wow, on s'est mis en stage entre les deux.
Bah du coup.
Bah moi entre temps j'ai fait un. Ah pardon.
J'allais dire du coup on dit au revoir ensemble.
Machin. Ah oui pardon. Au revoir.
Merci à tous.
Au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit les petits.
Les petits, ah oui.
Donc vous vous souvenez de ça avec Pampronel et Nounours?
Oui.
Mais j'ai redécouvert la maison bleue. Non, c'était quoi déjà?
Ah oui, c'est Big Bear House, c'est quoi?
Oui,
c'est ça.
Mais oui, attends. Tiber et la maison
Tiber
bleue.
Tiber et la maison bleue, c'est ça.
Je connais
c'était
pas du
génial.
Tout.
Ça me dit un truc.
Je connaissais pas non plus. Mylène m'a montré. Elle était à fond.
Ah, c'est vrai que je t'ai montré.
On fait pas de post-show? Non, il y a largement assez de bêtises. Ok, on coupe alors.